Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
RMC, il est presque 7h. Tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Rémi, bonjour à tous. Une douloureuse reconstruction commence en Gironde, dans la commune du Porge. Des psychologues au chevet des sinistrés, alors que dans le Var, c'est la piste intentionnelle que privilégie le parquet pour expliquer la reprise du feu. Nous serons aussi dans le Jura, où à cause de la sécheresse, un village est obligé de se faire livrer de l'eau potable. Et Puto Maramos sera bientôt un joueur du Racing 92. C'est officiel, l'arrière du 15 de France s'apprête à vivre sa dernière saison sous les couleurs du Stade Toulousain.
Clara, un difficile retour à la vie d'avant pour les sinistrés de Gironde.
Et certains ont retrouvé leur maison intacte, d'autres sont en pleine démarche administrative auprès des assurances. L'incendie est fixé depuis plusieurs jours. Le traumatisme, lui, est omniprésent pour certains, notamment les habitants du Porge où 183 maisons ont été détruites. Dans l'école primaire de la commune, une cellule d'urgence médico-psychologique est disponible pour aider les familles à avancer et en particulier les enfants, Lucas Laubert.
À la maison, Jonas, 9 ans, ne peut s'empêcher de parler de l'incendie, des maisons des voisins et d'amis, pour certaines touchées par les flammes.
On a des copains où leur cabanon, il était en fer et on ne sait pas comment il est fondu, mais on ne l'a pas vu.
C'est pas toujours évident d'avoir des réponses à ces questions.
Oui, c'est ça.
Ah oui, moi j'en ai une.
Le petit frère Maxence lève le doigt.
Il y a deux copains que leur maison ont brûlé.
Et toi, ça t'a fait quoi?
Je sais pas.
C'est donc pour les aider à parler que Jérôme, leur père, les a emmenés ici, dans l'école, à la place des professeurs, des psychologues.
Chacun d'entre nous a été entendu individuellement. Ils sont très conciliants, à l'écoute, et ça fait du bien d'en parler.
Ça aide aussi à utiliser les mots justes avec les enfants, selon lui.
On leur a expliqué qu'on joue pas avec le feu, que ça peut être très grave, et qu'on les a protégés au maximum en essayant de s'éloigner des feux, tout simplement.
Lui aussi a pu parler, maintenant il regarde devant.
Il faut avancer, donc on laisse les choses derrière pour avancer dans la vie. Pour rebâtir un nouveau port.
Pouvoir aider ses proches plus durement touchés aussi, et grâce au soutien psychologique, savoir comment leur parler.
Reportage de Lucas Laubert, l'un de nos envoyés spéciaux en Gironde, où pour tous les salariés des TPE et PME évacués comme ceux des Landes, l'État va prendre en charge intégralement les indemnités d'activité partielle, annonce le ministère du Travail. Dans le Var, la reprise du feu vendredi dernier pourrait être intentionnelle, selon le parquet de Draguignan, qui dit envisager sérieusement cette hypothèse des mises à feu volontaires, qu'a aussi dénoncé le préfet du Var, Simon Babre.
Il y a encore des incendiaires qui se sont manifestés avec un départ de feu dont l'origine volontaire est peu contestée. C'était sur Montfort-sur-Argence. Et puis, de nouveau, un autre départ de feu avec une origine volontaire du côté de Barjols. On sait que nous avons un problème d'incendiaire, que nous avons besoin de tenir la zone, d'éviter que des candidats incendiaires puissent se présenter, notamment dans les jours qui viennent, qui sont des jours à haut risque.
Le préfet du Var qui indique également que la journée d'hier a été plus calme que les précédentes. Dans la Drôme, les pompiers luttent aussi toujours contre les flammes. 280 hectares partis en fumée autour de Bellegarde en Diois. Deux pompiers ont été légèrement blessés. Des conditions météo défavorables attendues aujourd'hui.
Et notamment à cause de la chaleur, vigilance orange canicule dans 10 départements du Sud-Est.
Alors que la France est déjà frappée de plein fouet par la sécheresse, le mois de juillet a été le plus chaud jamais enregistré, annonce Météo France. Et dans plusieurs régions, la situation est critique. Dans le Jura, à Villars-Saint-Sauveur, la mairie a dû affréter un camion-citerne pour éviter la pénurie d'eau potable. Le reportage de Vincent Chevalier.
Tant bien que mal, le camion-citerne tente de se frayer un chemin jusqu'au château d'eau de la Pérouse. Pour la première fois de l'été, il faut remplir la cuve avec l'eau du village voisin. Ce hameau de Villars-Saint-Sauveur risque la pénurie.
Aujourd'hui, donc, nous avons 1,77 m d'eau.
Alain Rinaldi, le maire de la commune.
Le réservoir, on peut aller jusqu'à 4 mètres. On a un point critique, voilà, on arrive au fond du réservoir, parce qu'après, ça va très vite. Quoi. Il suffit qu'il y ait une grosse consommation pendant un jour ou deux, puis là, on ne peut plus.
Une livraison de 32 mètres cubes qui sera vite épuisée par les résidents rejoints pour les vacances, par leurs proches et par des touristes. Stéphanie a rejoint la maison de famille il y a quelques jours.
Toute petite ou...
je me baignais dans la fontaine coulait à flot. C'est vrai que sur les toutes dernières années, on ressent vraiment que c'est de pire en pire, quoi. Là, la fontaine, elle coule plus. C'est un peu triste, quoi, et ça fait un peu peur.
Désormais, chacun ici sait que l'eau est plus précieuse qu'ailleurs et qu'il faut faire attention.
On ne peut pas non plus s'empêcher de vivre. On a deux enfants assez jeunes. Il faut se laver. Il faut aussi se rafraîchir comme on le peut.
Une opération très coûteuse pour la commune. 1500 euros, sans compter le prix de l'eau facturé un peu plus tard.
Et ces chasses historiques, on vient de l'entendre, Clara, et dans un instant, Jean-Claude Guéhennec, qui est le vice-président de Légumes de France, sera avec nous parce que les maraîchers sont en crise.
Une personne activement recherchée par les secours en Haute-Savoie après avoir été emportée par les eaux à Sixte, fer à cheval, près de Samoin. La rivière a débordé après un violent orage et a provoqué une coulée de boue. Une dizaine de personnes ont été évacuées par hélicoptère. Le chef cuisinier Jean Humbert a passé la nuit au dépôt du tribunal judiciaire de Paris, transféré hier soir après que sa garde à vue a été levée. Le vainqueur de Top Chef, visé par au moins 3 plaintes de ses ex-compagnes pour violence conjugale.
Dans la Manche, un sauvetage d'une rare ampleur.
Plus de 170 migrants secourus au large de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. Aucune victime n'est à déplorer, Victor Girard. Ils tentaient de rejoindre le Royaume-Uni et leur embarcation a pris feu.
173 migrants entassés les uns sur les autres à bord d'un small boat, ces embarcations gonflables de fortune. Mais cette fois, ce qui change, c'est la taille du bateau, bien plus grand que d'habitude, parti lundi des côtes normandes. Alors qu'il approche des eaux britanniques, son moteur prend feu, un incendie qui oblige les passagers à se jeter en pleine mer. C'est à ce moment-là qu'un important dispositif de secours est déployé, des navires français mais aussi britanniques mobilisés pour les ramener à terre. Une opération hors norme, explique Théo Lamblin, bénévole à la protection civile.
Le nombre est assez conséquent. D'habitude, on peut intervenir pour un dispositif de 13 personnes. Donc le nombre est plus réduit. Ici, là, ça fait prendre de l'ampleur au dispositif.
Alors, arrivés sur le quai de Boulogne-sur-Mer, les exilés sont conduits en bus vers des centres d'accueil et suivis par des associations, dont Utopia 56. Angèle Vettorio, sa coordinatrice, alerte sur l'évolution des traversées.
On voit de plus en plus des plus grandes embarcations avec plus de personnes à bord. Et ce qu'on craint, c'est que ça soit une dynamique qui arrive de plus en plus dans le futur, avec toujours le risque de mourir en mer.
La coordinatrice d'Utopia 56 s'inquiète notamment de la présence de plus en plus fréquente de femmes et d'enfants à bord de ces embarcations par rapport aux années précédentes.
Une nouvelle menace de Donald Trump. Les Iraniens seront frappés très fort si le détroit d'Ormuz n'ouvre pas rapidement. Déclaration faite ce matin à la chaîne Fox News. Il ajoute que pour le moment, les pourparlers ont bien avancé et assure que Téhéran voulait passer un accord. C'est un été assez compliqué pour les usagers des transports parisiens. Le réseau de la capitale en plein travaux. Le maire insoumis de Saint-Denis, Bali Bagayoko, demande à la RATP et la SNCF des solutions concrètes pour pallier ces interruptions sur certaines lignes, notamment le RER B qui dessert l'aéroport Charles de Gaulle. Il y a certes moins de monde grâce aux vacances, mais Alexandre Thibault, et vous l'avez constaté par vous-même, pour ceux qui travaillent, c'est une vraie galère.
À peine sorti du bureau, Cyril a les yeux rivés sur les horaires de train sur son portable.
Les applications sont les amis du forçat des transports. Mon prochain RER, c'est à 19h07.
Ce chef de projet informatique prend normalement le RER B de Massy-Palaiseau jusqu'à Gare du Nord pour rentrer chez lui en Seine-et-Marne. D'habitude 1h20, mais cet été avec les travaux sur le RER B, c'est 2h et 5 changements.
Les correspondances sont très courtes entre chaque transport, donc ça m'arrive souvent de courir.
Première étape, le tramway, il arrive, mais 3 arrêts plus tard.
Donc là, il est 18h55, on est bloqué à Chilly-Mazarin. Je crains que le 19h07 ne passe au nez.
Cyril sort de la rame, désabusé, et court prendre un bus. Il arrive chez lui 3 heures après être parti. Travaux, renouvellement de voie, maintenance, un périple que Robin.
Pour être au travail à 8h30, je dois partir de chez moi à 6h moins le quart.
On a assez de subir quotidiennement.
Aujourd'hui, ce qui est difficile à accepter, c'est d'avoir l'impression de payer toujours plus cher alors que les conditions de transport restent très compliquées. Moi, je suis fatigué, je suis énervé. Je suis écœuré par cette situation.
Et Robin et Cyril vont devoir être patients. Des travaux sur une autre portion de la ligne sont prévus à partir de vendredi.
Le reportage d'Alexandre Thibault. Un préavis de grève chez EasyJet pour le mois d'août et jusqu'à début septembre. Des stewards et hôtesses de la compagnie low cost dénoncent une dégradation continue de leurs conditions de travail.
Clara, en rugby, Thomas Ramos s'apprête à vivre à sa dernière saison, déjà sous les couleurs du Stade Toulousain.
Et oui, c'est officiel. L'arrière du 15 de France rejoindra les rangs du Racing 92 la saison suivante en 2027. Wilfried Templier, les deux clubs l'ont confirmé.
Oui, un communiqué du Stade Toulousain tout d'abord, dans lequel Thomas Ramos a parlé d'une décision difficile à prendre, mais aussi de respect, de reconnaissance et d'attachement envers son club de toujours. De son côté, le président toulousain Didier Lacroix évoque un départ jamais anodin, mais qui fait partie de la vie d'un club. De cette façon, les deux parties ont désamorcé cette bombe pour mieux se tourner vers la dernière saison de Ramos à venir. 200 matchs en rouge et noir et meilleur réalisateur de l'histoire du club. Mais pas sûr pour autant que cette séparation ne laisse pas de traces chez le joueur et le club. Quoi qu'il en soit, le Racing 92 peut se frotter les mains. Après la Coupe du Monde en Australie, il va récupérer un des tout meilleurs joueurs français qui reste un compétiteur hors norme après avoir déjà tout gagné avec Toulouse.
En football, l'OL partira avec un point de retard la semaine prochaine au Groupama Stadium, battu hier soir 2-1 par le Sparta Prague au match aller du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. La déception de Pauline Ferrand-Prévot sur le Tour de France femme, elle est un peu plus de 2 minutes de retard désormais sur le chrono, battu au terme d'un contre-la-montre remporté par la Suissesse Marlène Reusser, aujourd'hui 5e étape dans le Beaujolais. Et puis c'est un nouveau tournoi auquel ne participera pas Carlos Alcaraz, le numéro 2 mondial de tennis devait revenir à la compétition pour le Masters 1000 de Cincinnati, mais l'Espagnol est toujours gêné par sa blessure au poignet.
Merci beaucoup Clara, prochain journal ce sera à 7h30, allez on va au 32-16. Jean-Claude est avec nous, bonjour Jean-Claude.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous dans Apolline Matin sur RMC, RMC Story, vous nous appelez depuis Perpignan Jean-Claude.
Oui, c'est bien ça, oui.
Et vous voulez ce matin nous parler d'un sujet qui touche tout le monde. On l'a tous remarqué en allant faire son plein. La hausse des prix des carburants, en tout cas, ne baisse pas, ça reste très fort. Vous roulez avec quel type de véhicule, Jean-Claude ?
Ben moi, je suis routier, donc avec un camion.
Donc, ouais, voilà. Alors là, c'est dur.
Et à titre personnel, avec un véhicule diesel. Voilà.
Bon, Jean-Claude, vous êtes salarié de l'entreprise de transport ?
Oui, oui, je suis salarié.
D'accord.
Oui.
Qu'est-ce que vous dites, votre patron?
Le patron, il est horrifié du prix du gasoil. Ouais. Il est horrifié du prix du gasoil parce que c'est un des postes les plus importants dans le coût mensuel d'un camion. Mmh. Il faut savoir que moi, quand je fais le plein en Espagne et puis quand je fais le plein en France, en gros, c'est 400 euros de différence sur un plein. Et un plein qui me dure 2 jours.
C'est énorme. C'est énorme. Donc, est-ce qu'il y a des craintes au sein de votre entreprise? Des craintes pour l'emploi, notamment?
Il y a des craintes, évidemment, mais il y a surtout des mesures prises.
C'est-à-dire?
Avec l'augmentation du parc en baissant, qui est un carburant alternatif, qui est de l'huile. Mmh. Et l'investissement est en accéléré pour doter ce parc de tous ces camions qui fonctionnent.
Ouais, donc l'entreprise a encore les capacités par rapport à certaines financières d'investir dans d'autres.
Oui, c'est une grosse entreprise. Ouais. Il y a 1000 camions, donc c'est une grosse entreprise. Donc elle a les moyens de le faire, mais les petits, ils n'ont pas les moyens de faire.
Oui, c'est ça. Et à titre personnel, Jean-Claude, vous, en tant que rouleur, automobiliste, enfin, je sais pas, moi, je vois le prix du baril baisse. Pierre Rondeau est à mes côtés, notre économiste. On est à
78,41.
Voilà,
à 90 voire 100.
Exactement. Il y a quelques. Et pourtant, les prix, notamment du diesel, sont très hauts. Comment vous l'expliquez, Jean-Claude?
Moi, ce que je peux expliquer par rapport, moi j'habite à 8 km de l'Espagne, donc si vous voulez, il y a 3 semaines, parce que je suis parti un petit moment sur la route, 3 semaines, j'ai fait le plein 1,339 € en Espagne, alors que c'était à 2,07 € en France. Ouais. Moi, depuis 10 ans, je constate qu'on a un écart d'à peu près 30 centimes.
Mais je crois que ça s'explique notamment, pas que, mais notamment par les taxes en France. On est assez doué dans le domaine. Jean-Claude, merci d'avoir été avec nous. Belle journée du côté de Perpignan. Et vous continuez à nous appeler au 32-16 RMC 7h13.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Juillet 2026, le mois le plus chaud jamais enregistré en France avec une sécheresse historique. C'est ce que nous dit Météo France. 99 départements sous restriction. Ce sont les cultures qui souffrent. Les salades, les tomates, les haricots, les melons, les maraîchers parlent d'une crise jamais vue. Il faut assouplir les restrictions d'arrosage. C'est le parti pris de Jean-Claude Guéhennec, maraîcher dans les Yvelines, vice-président de Légumes de France. Il est avec nous dans un instant. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC, Apolline Matin. RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC 7h15, juillet 2026, c'est le mois le plus chaud jamais enregistré en France. C'est ce que nous dit Météo France, avec près de 70% de déficit de pluie. C'est l'un des plus secs depuis 1900. Cet été, sécheresse record et toute la France sous restriction. Il faut assouplir les restrictions d'arrosage. C'est le parti pris de ce matin et c'est le parti pris de Jean-Claude Guéhennec. Bonjour Jean-Claude Guéhennec.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RMC, RMC Story. Vous êtes maraîcher dans les Yvelines, vice-président de Légumes de France. Jean-Claude Guéhennec, les pertes sont monumentales pour le secteur.
Oui, tout à fait. Les pertes sont très, très, très importantes. Aujourd'hui, on ne peut pas encore chiffrer, mais si je prends par exemple le cas de la Bretagne, il y a plus de 50% de pertes, voire 60% à l'heure où je vous parle. Mais les conditions climatiques continuent et on n'a toujours pas d'eau.
Toutes cultures confondues, 50% de pertes, toutes cultures confondues.
Alors, c'est toutes cultures confondues. Alors, celui qui peut arroser peut arriver à sauver une petite partie. Il y a une baisse de rendement de 50%. Mais la Bretagne, ça représente que 15% de l'irrigation. Et ailleurs en France, certains arrosent, d'autres n'ont plus d'eau. Il y a un an, je sais que certaines personnes n'ont plus d'eau sur certains sites. Donc, derrière, c'est éminemment compliqué. Et en plus...
Concrètement, Jean-Claude Guéhennec, oui, en plus, continuez.
En plus, si vous voulez, sur certains départements, on a des restrictions d'arrosage concernant nos cultures. Et ça, c'est de l'alimentaire. Si on n'a pas d'eau, les légumes, on ne peut pas les faire pousser. Donc, je dirais, les Français risquent d'avoir une rentrée relativement difficile. Mais
et c'est le cas chez vous, dans les Yvelines, notamment, au niveau des restrictions.
Tout à fait. J'étais hier avec le préfet des Yvelines et on essaye de regarder comment on peut s'adapter. Mais il est impossible de nous interdire d'arroser, même en pleine journée. Ben les salades, ils sont en train de crever, et donc on est obligé de les mouiller. En fait,
pourtant,
comme on peut.
Et pourtant, c'est le cas. Les horaires, c'est quoi? C'est 10h, 18h, c'est ça, si je me trompe pas?
Ben, ça dépend ouais. Si on est en zone renforcée, si on est en zone.
Mais
rouge,
vous, dans les Yvelines, par exemple, prenons un exemple concret.
Moi, aujourd'hui, je risque d'être en zone renforcée, donc il va y avoir des restrictions de 9h à 20h. Donc, tout ça,
c'est pas le choix. De 9h à 20h.
Ouais. Voilà, pour nos cultures. Bon, on a essayé de négocier avec le préfet hier, mais la situation est alarmiste parce qu'il n'est pas possible.
Qu'on comprenne bien, Jean-Claude Guéhennec, moi je suis pas maraîcher, je suis jardinier du dimanche, comme on dit. Moi, on me dit toujours qu'il faut arroser très tôt le matin ou très tard le soir pour quand il fait très chaud. Mais vous, c'est des cultures qui nécessitent d'arroser tout le temps?
Alors, c'est-à-dire qu'on peut pas arroser tout en même temps, on est obligé de faire des choix. Et donc derrière, on peut pas arroser toute la nuit. On plante de la salade, je vais planter de la salade aujourd'hui, et donc je vais être obligé de la mouiller aussitôt. C'est-à-dire à 16h, elle est finie de planter, je suis obligé de la mouiller derrière.
D'accord.
Sinon, elle crame carrément.
Immédiatement sur place.
Ah ben immédiatement. Ça dépend des terrains, ça dépend des sols, ça dépend de la plante. Ça fait comme vous, si vous avez pas, vous êtes en plein soleil. Au bout d'une heure, si vous buvez pas, bah vous allez vous déshydrater. Les plantes, c'est exactement pareil.
Et le préfet des Yvelines, il en est conscient. Qu'est-ce qu'il vous répond?
Bien sûr qu'il en est conscient, mais le problème, c'est qu'il faut regarder par rapport à l'environnement. Les Français et les Françaises regardent en disant « vous arrosez en pleine chaleur, c'est pas possible, vous gaspillez l'eau ». Non, on gaspille pas de l'eau, on fait comme on peut.
Est-ce qu'on va manquer de légumes cet hiver? Alors, là, on manque déjà. Là, je sais que déjà, pour trouver des salades dans certains coins, c'est la croix et la bannière, mais à moyen terme, est-ce qu'on va manquer de légumes cet hiver?
Alors, je pense que déjà, la rentrée, ça va être éminemment compliqué, c'est-à-dire septembre-octobre, et les effets vont continuer de tout le courant de l'hiver, et donc on risque d'avoir une situation qu'on n'a jamais connue. Moi, à 50 ans d'expérience, je n'ai jamais connu une situation comme ceci, sachant qu'en 76, commençais déjà mon activité. Derrière, eh bien, je peux vous dire, là, aujourd'hui, on a des températures beaucoup plus chaude que 76, et on a du vent. Vous voyez, hier soir, j'ai mis un arroseur.
Qui assèche tout.
Et qui assèche tout. Là, il y a encore ce matin, il y a encore du vent. Et donc, c'est extrêmement délicat.
Il y a le rôle aussi des distributeurs, des supermarchés, hypermarchés, etc., qui vous demandent des calibres bien précis pour les légumes. Par exemple, il y a un grammage, je crois, de 350 grammes. Ça, c'est
pour les salades,
c'est ça? Donc, vos salades sont petites à l'heure actuelle à cause de la sécheresse et on vous les refuse?
Oui, il y a tous les cas de figure. Il y en a qui ont de la petite, il y en a qui ont de la grosse. Et derrière, il y a des palettes qui sont complètement refusées. On les coupe et ils sont complètement refusés.
Est-ce qu'il y a un rôle à jouer de la part des distributeurs? Est-ce qu'ils devraient faire des efforts aussi?
Oui, les distributeurs aujourd'hui sont pas conscients, sont pas du tout conscients de la situation. On les a alertés, on va encore les alerter aujourd'hui. Ils font, ils continuent à faire des promos. J'irai dans les magasins. Là, la semaine prochaine, j'ai entendu qu'une enseigne allait faire une promo en salade. Ce n'est pas possible. On marche complètement sur la tête. Ils veulent des prix au détriment du monde agricole. Et nous, c'est pas possible. Moi, je suis en fin de carrière. Ça, c'est pas le problème. Mais les jeunes, j'ai appris hier, dans mon secteur, il y a deux jeunes qui vont arrêter.
Oui, c'est ce que j'allais vous poser comme question, Jean-Claude Guenec. Moi, j'ai un ami qui est maraîcher bio dans le Nord. Et je suis allé dans ses champs il y a deux semaines. Je sentais que ça commençait à être difficile pour lui. Est-ce qu'il y a certaines entreprises qui vont mettre la clé sous la porte?
Ah, tout à fait. Au niveau français, il y en a. Là, j'ai eu le président de Prince de Bretagne hier au téléphone. Les gens sont désespérés, mais désespérés. C'est-à-dire que derrière, ils veulent même pas emprunter un euro en disant « on prend déjà ce qu'on a et on arrêtera ». Donc, c'est pas possible. Il y a une situation où les jeunes ne peuvent plus continuer.
Tu peux faire l'État ?
Alors, aujourd'hui, il est trop tôt de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire, parce que je pense qu'on est qu'au début de la crise. Il va falloir faire carrément un plan Marshall, un plan pour redresser la filière légumes en France.
Et Jean-Claude Guenec, on le sait, vous le savez, ce type d'événement, de situation va se multiplier dans les mois, les années à venir. C'est le dérèglement climatique, voilà, et tous les spécialistes nous le disent, les épisodes de sécheresse vont se multiplier. Est-ce qu'il faut aussi changer de modèle ?
Alors, changer de modèle, déjà, il va falloir, quand l'eau tombe l'hiver, il faut la récupérer. Et donc, absolument, il faut qu'on puisse avoir une aide de ce côté-là pour nos produits. Les produits, il faut savoir si on choisit...
Ça sera dans la loi d'urgence agricole qui
oui. Est votée. Mais la loi d'urgence, le temps que ça se mette en place, ouais. Il va falloir investir. Qu'est-ce qui va payer? Qu'est-ce qui va nous aider? Donc, si les gens ont déjà la trésorerie complètement à plat, qui et comment on va faire pour investir?
Jean-Claude,
regardez dans le temps.
Jean-Claude Guenec, merci beaucoup d'avoir été avec nous, maraîcher des Yvelines, vice-président de Légumes de France. Allez, dans un instant, le meilleur d'Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin, l'économie avec Pierre Rondeau. Pierre, la France continue de creuser son déficit et pas qu'un peu. Hein.
Ah, pas qu'un peu, on va voir, c'est quand même assez énorme et assez catastrophique.
Allez, à tout de suite sur RMC et RMC Story. Bon réveil à tous.
RMC, Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
RMC, il est 7h22, Pierre Rondeau est là.
RMC,
le chiffre du jour.
Pierre Rondeau, notre économiste. Pierre, 107 milliards d'euros, c'est le déficit cumulé de l'État depuis le début de l'année. C'est énorme, on parlait de sécheresse. La France est à sec.
Alors, je ne vais pas le dire qu'on va droit dans le mur, mais on s'y approche. 107 milliards, vous l'avez dit Rémi, c'est seulement pour le premier semestre 2026. L'année n'est pas finie. Donc le déficit à 107 milliards a augmenté de 6,4% par rapport à 2025. Alors même que l'année dernière avait été une réussite en termes de réduction du déficit, la correction semble avoir pris fin et on se dirige pour 2026 vers une année catastrophique sur le plan comptable et financier. Le déficit augmente et cela aura des conséquences fâcheuses pour notre économie. Rigueur, méfiance, désintérêt ou encore ralentissement.
Bon, tu l'as dit Pierre, l'année 2025 avait été une réussite. Alors qu'est-ce qui explique cette augmentation, cette explosion du déficit?
Alors tout simplement deux choses. Alors je pourrais en rajouter une troisième avec les sécheresses, les canicules et le dérèglement climatique, mais pour l'instant on a deux choses: le coût de la dette et les dépenses militaires. Parce que la santé financière de la France s'est détériorée, nous avons perdu la confiance des investisseurs qui ont peur de nous prêter de l'argent. Et quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On augmente les taux d'intérêt. Hein. C'est un cercle vicieux. Il faut dorénavant payer plus d'argent pour rembourser seulement les intérêts de la dette publique. Le coût de la dette a augmenté de 19% par rapport à l'année dernière, cercle vicieux, plus on s'endette, plus on inspire de la méfiance, plus le taux d'intérêt augmente et plus le coût de la dette augmente. Enfin, dernier élément, le secteur militaire. Les dépenses militaires ont considérablement augmenté entre 2025 et 2026. Du fait de la programmation militaire et des surcoûts opérationnels, il faut financer les aides pour la guerre en Ukraine et les investissements nécessaires en matière de défense. Le Parlement a d'ailleurs voté récemment une hausse du budget des armées de 36 milliards d'euros d'ici 2030. Tout cela pèse sur le déficit. Résultat, 107 milliards pour le seul premier semestre 2026.
Et face à cette situation, certains réclament une année blanche, hein, ne pas revaloriser notamment les pensions de retraite ou encore les prestations sociales. Et tout à l'heure, à 8h40, nous serons avec Philippe Juvin, c'est le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Pierre, on se retrouve après le journal de 8h. Pierre, tout de suite, c'est le meilleur de l'historien d'Apolline Matin, Arthur Chevalier, et on parle de chiens.
L'histoire éclaire notre actualité comme chaque matin avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur. Bonjour. D'après deux études parues cette semaine dans la revue Nature, la domestication des chiens serait beaucoup plus ancienne que ce qu'on pensait.
Et oui, jusqu'ici les plus anciennes traces qu'on avait des chiens remontaient à 10 900 ans. Mais des chercheurs ont donc découvert des traces ADN en Turquie, des traces d'un chien qui aurait vécu il y a 15 800 ans et a priori c'était une femelle.
Donc c'était déjà un animal domestique ?
Oui, en tout cas, il vivait déjà auprès de l'homme. Les chiens, c'est une race qui descend du loup et ils se sont effectivement très vite rapprochés de nous. Dans l'Antiquité, le chien avait à peu près la même fonction qu'aujourd'hui, un compagnon, mais aussi et surtout un animal qui nous protégeait. Figurez-vous qu'à Rome, devant les maisons des particuliers, il y avait des pancartes où était inscrite la phrase suivante « Cave canem », c'est du latin et en français ça veut dire « attention ». Chien méchant, donc on n'a rien inventé.
Extraordinaire. Le chien va ensuite devenir l'animal de compagnie des puissants de ce monde.
Et oui, petit à petit, l'aristocratie va s'enticher de ce petit animal obéissant et fidèle. Le chien devient même un animal de cour. Prenez le roi de France, Louis XIV. Il avait des dizaines de chiens. Sa race préférée, c'était les braques. Alors attention, ça ne plaisantait pas avec les chiens du roi, puisqu'ils avaient un pavillon juste pour eux. Dans les jardins du château de Versailles, le cuisinier du roi leur faisait à manger et Louis XIV avait même demandé à son peintre de les représenter.
Les chiens vont ensuite être persécutés.
Oui, alors ça se passe au XIXe siècle. Le problème, c'est que des chiens, il y en avait de plus en plus et en fait beaucoup trop, hein, notamment dans les villes où les chiens errants deviennent un vrai problème, un fléau. Du coup, les pouvoirs publics s'en emparent et c'est à cette époque qu'on institutionnalise les fourrières. Et les chiens errants, c'était un problème mondial, hein, et ça va donner lieu à une invention totalement morbide, puisque pour s'en débarrasser, on crée les toutes premières chambres à gaz pour chiens. La première était à Mexico.
Et pourtant, les chiens vont s'avérer aussi très utiles en temps de guerre.
Eh oui, la Première Guerre mondiale, c'est l'heure de gloire, hein, des chiens. Sur le front, on en compte à peu près 100 000. Leur rôle sera déterminant. Alors, il y avait des chiens qu'on appelait sanitaires. En fait, c'était des chiens ambulanciers. Leur mission, c'était d'aller retrouver des blessés ensevelis dans les tranchées ou d'apporter des médicaments. Il y avait aussi des chiens transporteurs. Eux, ils apportaient de la nourriture et des munitions. Et on saura leur rendre hommage, puisque en 1917, certains de ces chiens reçoivent une médaille militaire qui s'appelait la médaille de l'éclaireur. Et c'est le président de la République de l'époque en personne, Raymond Poincaré, qui leur a remis à Paris au cours d'une cérémonie solennelle. Donc je crois qu'on peut le dire à Pauline, aux chiens, la patrie reconnaissant.
Arthur Chevalier l'a retrouvé en podcast sur l'appli RMC. Et dans un instant, la météo et le journal de 7h30. A tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Et tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clément Guides. Bonjour Clément.
Bonjour Rémi, bonjour à tous. Une vallée coupée du monde, des habitants évacués par hélicoptère, une personne portée disparue près de Samoa en Haute-Savoie après des violents orages hier soir. La piste criminelle sérieusement privilégiée par le parquet de Draguignan pour la reprise de feu dans le Var. Et l'Olympique Lyonnais rate sa rentrée. Défaite hier soir de 2-1 face au Sparta Prague lors du troisième tour préliminaire aller de la Ligue des Champions.
Une personne portée disparue après des intempéries en Haute-Savoie.
Le déluge a tout emporté sur son passage près de Samoin. L'eau est montée en quelques minutes et a piégé de nombreux habitants. Plusieurs évacuations ont été menées. Un épisode particulièrement violent, Lou Garnier.
Depuis son balcon, Esteban assiste impuissant à la montée des eaux de la rivière du Giffre à quelques mètres en contrebas.
C'était assez rapide, on est passé de transparente à noire. C'était de la boue qui coulait tout le long. Il y a eu beaucoup de débit. On a vu quand même quelques arbres passer. C'est impressionnant quand même. C'était pas des petits troncs d'arbres, c'était carrément des arbres antiques.
Des troncs d'arbres dans l'eau et un débit qui s'accélère. Une personne a été emportée par les flots. Elle est toujours portée disparue. Capitaine Julien Legrand.
On a des zones identifiées en Haute-Savoie. On sait qu'avec les intempéries, potentiellement, c'est des zones qui peuvent monter. Mais là, je pense qu'il y a eu un effet de surprise. L'orage est arrivé à vite.
Un peu plus haut, une coulée de boue se déverse au pied du cirque du fer à cheval, une zone très prisée des randonneurs.
Avec deux rotations d'hélicoptères, on a mis en sécurité 15 personnes, dont deux bébés. Toutes les personnes qui étaient sur le chemin ont été évacuées.
Sur place, une cinquantaine de pompiers sont mobilisés, ainsi que des drones et des sauveteurs en eau vive.
Juillet 2026 restera comme un mois hors norme, une température moyenne de 25 degrés du jamais vu en France. Conséquence, la sécheresse s'aggrave et les incendies se multiplient.
Et justement Clément, l'incendie dans le Var n'est toujours pas fixé mais stabilisé.
Et cette reprise de feu vendredi dans le secteur de Coran serait d'origine criminelle. C'est en tout cas Célestin Bougère, la piste privilégiée par le parquet de Draguignan. Et ce ne seraient pas les seuls actes volontaires.
Oui, dans la nuit de lundi à mardi, les autorités ont dû gérer deux nouveaux départs de feu volontaires à Barjols et à Montfort-sur-Argent. Le parquet de Draguignan a déjà ouvert 24 enquêtes depuis le début de l'été dans sa juridiction, rien que sur le secteur du Gros Bessillon. 6 actes intentionnels ont été dénombrés par les autorités depuis le 24 juillet. Pour en éviter de nouveau, les gendarmes surveillent les massifs. Une mission très compliquée selon le colonel Grégory Goumin, commandant de la gendarmerie dans le département.
On a des lisières qui font plus de 200 km de long. Les temps de trajet sont importants du nord au sud du feu du Gros Bessillon. Le terrain qui nous revient de quadriller est plutôt très étendu. Donc on allie à la fois des moyens techniques et des moyens humains pour surveiller ces zones.
Pour retrouver ces incendiaires, 80 gendarmes mobiles mais aussi un hélicoptère et deux drones ont été déployés. Les autorités s'appuient aussi sur les témoignages des riverains. Un homme de 23 ans a été interpellé le 25 juillet dernier et placé en détention provisoire. Suspecté d'une dizaine de départs de feu, il encourt jusqu'à 15 ans de prison et 150 000 euros d'amende.
Près de 300 hectares parcourus par les flammes dans le secteur de Bellegarde en Douai, dans la Drôme. Incendie qui a blessé deux pompiers, les sapeurs qui craignent une nouvelle journée difficile en raison d'une météo défavorable.
Des sapeurs-pompiers, Clément, qui manquent de moyens, c'est ce que disent leurs syndicats. Nous ne voulons pas des médailles, mais des moyens. Voilà ce qu'ils disent. Stéphane Le Cire, porte-parole du syndicat Sud SDIS, sera notre invité tout de suite après le journal.
RMC 7h33, un projet de ferme géante de saumon fait polémique en Gironde. Elle verra le jour au Verdon-sur-Mer. 280 millions d'investissements, des milliers de tonnes de saumon produites chaque année. La préfecture a donné son feu vert, une autorisation dans un cadre environnemental strict. Pas de quoi rassurer Esther Dufort, directrice de l'ONG de défense des océans systémiques.
On est sur une usine de saumon qui est titanesque. Pour traiter l'ensemble des rejets, les fécesses des saumons, on a besoin d'une grosse station d'épuration. Et cette station d'épuration, c'est l'équivalent d'une ville de 100 000 habitants. Donc, il y aura de l'azote et d'autres contaminants qui vont venir polluer l'estuaire. On nous dit qu'il y a un comité de suivi, mais qui est sollicité à l'initiative de l'industriel. Donc, c'est Pure Salmon qui décide quand ce comité se réunit et s'il le souhaite. Ça paraît complètement affligeant et aberrant de valider ce type de projet. Il n'y a aucun cadre, il n'y a rien de contraignant pour l'industriel.
Après l'affaire Liana, le bilan choc du réexamen des plaintes pour violences sexuelles sur mineurs.
C'est Gérald Darmanin qui donne ce nouveau chiffre sur le réseau X. 1424 suspects de viol ou d'agression sexuelle sur mineurs, d'hommes en prison depuis le 8 juin. Date à laquelle le ministre de la Justice avait demandé aux magistrats de reprendre l'intégralité des plaintes qui touchent les enfants face à l'indignation nationale après la mort de Liana. 11 ans dans le Gers, et Sonia Gobry du service politique des RMC. Ces nouvelles investigations commencent à porter leurs fruits.
Oui, près de 2000 informations judiciaires ont été ouvertes ces deux derniers mois. C'est cette phase d'enquête qui permet de rassembler les preuves à charge ou à décharge. Et donc, 1424 suspects ont été incarcérés pour viol et agression sexuelle sur mineurs. Gérald Darmanin ne précise pas si certains dossiers dormaient dans un tiroir ou avaient pris du retard. Le garde des Sceaux, vivement critiqué par des magistrats qui l'accusaient de les avoir jetés en pâture dans l'affaire Liana, les remercie pour leur travail acharné, puisqu'au total, près de 70 000 dossiers de violences sexuelles sur mineurs ont été réétudiés ou sont en cours de réexamen, auxquels s'ajoutent plus de 15 000 plaintes qui, je cite, « ont été découvertes par les services enquêteurs depuis le 8 juin ».
88, nombre de migrants décédés en ayant tenté la semaine dernière de rejoindre Ceuta en Espagne depuis le Maroc. Bilan donc revu à la hausse. Cette crise migratoire a provoqué des tensions entre les pays européens qui se sont réunis hier en urgence. Justement, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunes, a confirmé le renforcement des contrôles aux frontières.
Pour la frontière franco-espagnole, j'ai donné le chiffre qui reste évidemment d'actualité. Ça a été un renfort immédiat de 334 personnes. Il y a 5 forces mobiles actuellement qui assurent un contrôle des 37 points de passage autorisés qui existent sur la frontière franco-espagnole, entre le département des Pyrénées-Orientales et le département des Pyrénées-Atlantiques, sur tout ce linéaire. Et ils sont renforcés par la mise en œuvre donc de la force frontière d'intervention rapide qui va mobiliser 186 personnels supplémentaires qui vont être affectés au contrôle de la frontière.
15 morts et 27 blessés cette nuit à Kiev et ses alentours après des frappes russes. Des entrepôts ont également été visés, annoncent les autorités ukrainiennes. Et attention, si vous prenez l'avion avec EasyJet, une grève des hôtesses et stewards pourrait perturber les vols au départ de la France pendant un mois. Des perturbations qui pourraient débuter ce vendredi jusqu'au 7 septembre. Ils demandent de meilleures conditions de travail.
RMC 7h37, l'OL puni sur la pelouse du Sparta Prague.
Défaite hier soir, 2-1 lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions et Valentin Jamin. Les Lyonnais devront faire mieux mardi prochain pour espérer jouer les barrages.
Oui, sur la pelouse, regard dans le vide après le match, les Lyonnais écoutent les supporters tchèques chanter. Eux sont sonnés et déçus, car malgré une ouverture du score inespérée grâce à un but contre son camp adverse, la défaite est méritée, selon le défenseur Clinton Mata.
Ce qu'on a affiché techniquement, c'était pas à la hauteur de ce qu'on peut faire, en deçà de ce qu'on a déjà montré. C'était insuffisant. C'est à nous de mieux faire et de montrer un autre visage.
Lyon a semblé parfois perdu, en manque d'automatisme, inférieur au vice-champion de Tchéquie qui a aussi eu deux buts refusés, même si l'OL dominé aurait aussi pu mener 2-1 quand le capitaine Tolisso a raté son pénalty. Lyon a fini par pousser un peu, alors l'entraîneur Paulo Fonseca y croit avant le match retour.
Ça sera difficile, mais ça sera pas impossible. Nous devons être positifs parce que nous avons la possibilité à notre maison, avec notre supporter, de changer les choses. Mais c'est vrai que nous devons défendre mieux qu'aujourd'hui.
Lui aussi a fait des choix qui n'ont pas payé. Il sera attendu alors que son équipe n'avait jamais perdu contre le Sparta Prague en 6 rencontres.
Match retour mardi prochain à Lyon, à suivre sur RMC. Place à la 5e étape du Tour de France Femmes. Aujourd'hui, c'est à vivre sur RMC. Étape longue de 140 km entre Mâcon et Belleville en Beaujolais. Marlène Reusser a remporté hier le contre-la-montre et endosse le maillot jaune.
Saint-Malo, la cité des corsaires. Le quintet s'y déroule sur l'hippodrome de Saint-Malo et ce sera à 18h30.
Le pronostic de la Dream Team, leur favori le 6, Lord Dello. Leur outsider le 14, Horatius Della.
Merci beaucoup Clément, et le prochain journal ce sera à 8h. Patrick est avec nous au 32-16. Bonjour Patrick.
Bonjour Rémi.
Merci d'être avec nous, on est dans l'Hérault à Saint-Just.
Oui, Rémi, je suis très content de te voir avec ton émission. Tu te rappelles, j'étais venu à l'époque d'Éric Brunet dans vos anciens locaux pour parler des retraites justement.
Exactement.
On avait passé un bon moment ensemble.
On avait passé un très très bon moment effectivement sur RMC. Et je vois que tu es resté fidèle. Merci beaucoup, Patrick. Oui. Je me prends à te tutoyer, tu vois. Mais puisqu'on s'est déjà vu, je me le permets, Patrick. À l'époque, tu nous parlais des retraites. Eh ben, c'est encore question de retraite. Mais là, tu veux nous parler du déficit. Pierre Rondeau nous a parlé tout à l'heure. Pierre Rondeau, notre économiste qui est à mes côtés, nous a parlé du déficit record de la France. Là, on est à plus 107 milliards sur le premier
semestre janvier et juin 2026.
Qu'est-ce que tu en penses, Patrick?
Bah, d'abord, c'est scandaleux de prévoir à la base un budget en déficit. Je veux dire, si les entreprises, les associations ou les personnels ou les familles géraient comme ça, ce serait la cata. Donc,
on est loin du bon père de famille, hein.
Il y a une incompétence complète de nos gouvernants. Et ensuite, il faut revoir complètement le budget dépenses du pays avant d'envisager les recettes. Et avant de taper et geler les retraites, continuer de diminuer les remboursements sécu et compagnie, eh ben, il y a d'autres choses. Les 80, 100 milliards d'agences d'État, où on se demande à quoi ça sert, sinon recaser les copains. L'aide médicale d'État aussi, ça suffit, faut commencer à taper là-dedans. Les aides au développement, les 15-20 milliards qui sont développés, qui sortent de France, il y a peut-être ça à regarder avant.
Donc là, le problème, Patrick, Pierre Rondeau, le problème, c'est que personne n'est d'accord. Enfin, ça n'avance pas.
Et surtout, c'est mon sentiment. Fois, chacun prêchera pour sa paroisse. Voilà. Aller dire supprimer les agences ou l'aide médicale d'État. À chaque fois, à ce niveau-là, on dira soit c'est très peu de dépenses parce que l'aide médicale d'État, par exemple, c'est seulement 2 milliards. Mmh. Et le reste, quand on a 107 milliards de déficit, supprimer les agences d'État, ça va pas nous permettre d'annuler le déficit.
Patrick.
D'accord, Pierre. Mais à ce moment, on y va petit à petit. Parce que, parlons de choses comparables. On parle des nickels d'État, c'est moins de 2 milliards, d'accord. Mais quand on baisse des remboursements sécu pour gagner 400 millions, les 400 millions, on les a. Donc, y a ces agences d'État, voyons exactement leur utilité. Et peut-être que sur les 80 milliards, on va trouver 30 ou 40 milliards à supprimer.
Patrick,
faut regarder point par point.
Patrick, j'espère que tu resteras avec nous jusqu'à 9h à l'écoute d'RMC et d'RMC Story. Tout à l'heure, à 8h40, Philippe Juvin, député LR, qui est rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, sera avec nous. Lui, il est contre l'idée d'une année blanche. Bon, pour faire simple, l'année blanche, c'est qu'on gèle, on n'indexe plus sur l'inflation, les pensions de retraite, les prestations sociales, y compris les barèmes de l'impôt sur le revenu, ce qui fait qu'il y a un peu plus de monde qui va payer l'impôt sur le revenu. Donc tout ça, ça permet d'engranger, de récupérer ou en tout cas de moins dépenser. Patrick, est-ce que toi, l'année blanche, tu es pour ou contre ?
Je suis contre. L'année blanche, c'est une baisse de revenus, une baisse pour les Français qui vont contribuer et compagnie. Avant, éventuellement, un jour, on peut penser une année blanche, mais après avoir analysé l'ensemble du budget d'État. Et quand on aura fait ce nettoyage, et effectivement, s'il faut encore un peu d'argent, il y aura des choix à faire. Mais la première priorité, c'est d'épurer le budget dépenses général, et après, on verra. Je veux pas qu'on commence par une année blanche, c'est trop facile. Trop facile.
Patrick, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Patrick qui nous appelait depuis Saint-Just dans l'Hérault et merci de ta fidélité. RMC, 7h42.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Beaucoup de messages sur le WhatsApp de l'émission 06 12 424 424. Victor Pourchet est là pour lire vos messages. Victor, on parle notamment des prix des carburants.
Et on a d'abord Yannick, je vous fais voyager, tiens, ce matin, qui nous dit « Je suis très heureux d'habiter à la frontière, comme Jean-Claude, hein, notre auditeur précédent du côté de Perpignan. Quand je vois les tarifs de l'autre côté de la frontière, je paye le samplon 98 à 1,50€. Christophe, lui, est actuellement en vacances en Tchéquie et il fait un petit relevé pour nous également. C'est 1,70€ pour le samplon 95. Oui, mais voilà, et nous, on est bien en France, comme Pascal qui nous dit chez moi en Moselle, c'est 2,33€ le litre de gazole, ça devient pratiquement un luxe de rouler en voiture, nous dit Pascal. Et puis Jérémy, lui, espère une baisse prochainement parce que oui, il part en vacances dans deux semaines, 800 km au programme, donc il commence déjà à compter combien ça va lui coûter ce long trajet des vacances. Vous continuez à nous envoyer vos messages sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424.
Merci Victor. Des pompiers obligés de poser des congés pour partir en renfort sur les incendies. Pas de GPS dans les camions d'intervention. Un beau veau de la sécurité civile lancé en 2024 qui n'a toujours rien produit. L'intersyndicale des sapeurs-pompiers est en colère. Stéphane Le Cire, porte-parole du syndicat Sud SDIS, est notre invité dans un instant sur RMC, RMC Story.
RMC, Apolline Matin. RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC, 7h46. On ne veut pas être traité en héros. On veut juste les moyens qu'il faut. Et pendant que le feu fait toujours rage dans le Var, l'intersyndicale des sapeurs-pompiers vient de publier un communiqué cinglant. Il refuse que le mot héros serve à masquer le délitement de la sécurité civile, c'est ce qu'ils disent. Bonjour Stéphane Le Cire.
Bonjour RMC.
Merci d'être avec nous sur RMC et RMC Story. Vous êtes le porte-parole du syndicat Sud SDIS, les centres d'incendie et de secours. Les pompiers ne veulent pas des médailles mais des moyens. Pourquoi ce communiqué ? Pourquoi ces mots ?
Alors, tout d'abord, pour vous dire déjà que ce que l'on réclame aujourd'hui, on le réclame depuis des mois et des années, ce qui a fait le Beauvau de la sécurité, que ce qu'on dénonce arrive cet été, et que c'est le moment de montrer que ce qu'on a dit était vrai, et qu'il va falloir prendre des décisions tout de suite, et pas attendre la présidentielle.
C'est quoi, on va être concret, les manques de moyens aujourd'hui pour les sapeurs-pompiers, notamment pour les milliers de sapeurs-pompiers qui ont lutté ces derniers jours contre le méga-feu en Gironde, mais aussi qui continuent de lutter aujourd'hui contre les flammes dans la Drôme ou encore dans le Var, notamment. Moi, j'ai la semaine dernière, sur RMC, j'avais l'un de vos collègues qui nous disait, par exemple, que, moi, ça me paraît hallucinant, que dans les camions d'intervention, il n'y a pas de GPS.
Non, il n'y a pas de GPS, mais si on va déjà parler justement des moyens qui manquent, et les premiers moyens qui manquent, c'est les moyens de l'État, en fait, puisque l'État ne finance pas les services départementaux. Ils sont financés uniquement par les communes et par les départements, en gros à hauteur de 50-50. Le reste du financement, il y a déjà une taxe sur les assurances qui existe et qui est reversée au département. Donc là, l'État est collecteur, mais l'État ne prend pas sa part. Alors, ils peuvent vous dire qu'ils ont proposé de 250 millions en 2022 pour acheter des Canadair. On les a pas vus, en fait, pour le coup. Et là, on est sur un sujet de régalien, en fait. La sécurité des Français, c'est aussi cette sécurité-là. Et il faut à tout prix que l'État mette la main au portefeuille. Alors, je suis un peu gêné de vous dire ça, parce que juste avant, j'ai entendu l'édito que vous avez fait sur la dette publique française, que je connais, vous inquiétez pas. Oui, c'est vrai, mais dans tous les cas, il faut de l'argent aujourd'hui. J'ai envie de vous dire, moins de héros et plus d'euros. C'est ça, c'est vraiment ça le besoin. Et l'État, tant que l'État ne jouera pas son rôle, les départements sont à la gorge, en fait, aujourd'hui.
Et pourtant,
toutes les missions qu'ils ont, ils peuvent pas y arriver, en fait. Après, pourtant, on parle aussi des moyens sur intervention.
Pourtant, il y a quelques jours, à l'occasion des incendies en Gironde, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, s'est dit sidéré par les polémiques concernant les moyens alloués. Selon lui, il n'y a jamais eu autant de moyens alloués aux sapeurs-pompiers.
Ouais, mais de toute façon, dès qu'on dit, dès qu'on ose imaginer que le travail que fait l'État, le gouvernement, n'est pas correct, bah forcément, ils sont sidérés. En fait, ils n'ont pas le courage politique de regarder réellement la situation et ils préfèrent dire que, en fait, on exagère sur tout. Mais à un moment donné, de toute façon, la réalité reviendra et les citoyens le comprennent. De toute façon, on voit très bien qu'on est dans la panade et ils ne pourront plus dire cet argument aussi idiot. Vous savez, ce que j'entends de nos élus nationaux, c'est la même chose que quand j'entends que les professionnels sont contre les volontaires. C'est aussi idiot et c'est surtout pas fondé. Donc on peut nous dire qu'on a multiplié par deux le budget, c'est vrai. Pour le coup, le président Macron ne ment pas. On est passé de 400 à 800 millions de souvenirs. Donc on ne ment pas, mais c'est multiplié par deux. Mais par rapport à quoi? Par rapport à quel besoin? Ouais. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas réformé la sécurité civile.
Sachant qu'en prime, votre nombre d'interventions a explosé.
Mais notre nombre d'interventions a explosé, tout à fait. Mais vous savez combien c'est en gros par mois et par habitant? C'est 8 euros par mois et par habitant.
Consacré au secours.
Exactement, c'est entre 80 et 100 euros par an. C'est moins qu'un abonnement sur une plateforme de streaming. Donc à un moment donné, on doit défendre notre pays en fait. Et là aujourd'hui on le fait pas en fait. Et on joue juste sur la bonne volonté et sur le fait que des citoyens, 250 000 en France, pas des héros, des citoyens, s'engagent pour la nation parce que on a ça en nous en fait.
Donc, je retiens en tout cas ce que vous avez dit, c'est une phrase choc, mais en tout cas elle est très parlante. Pas des héros mais des euros. Voilà ce que vous réclamez. Merci Stéphane Le Cyr, porte-parole du syndicat Sud 10 des sapeurs-pompiers. Ouais, merci d'avoir été avec nous sur RMC, RMC Story. Merci. RMC, 7h50, dans un instant, le portrait du jour. Victor Pourchet, on parle de quoi?
Le genre de jeu vidéo qui compte faire basculer la présidentielle à droite toute.
Allez, à tout de suite sur RMC et RMC Story. Bon réveil à tous.
RMC, Apolline Matin. RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC, 7h52, le portrait du jour avec Victor Pourchet. Ce matin, Victor, tu nous présentes Sardoche, une personnalité d'Internet que s'arrache la droite et l'extrême droite.
Et qui est annoncé en grande pompe aux universités d'été du parti Reconquête? Qui dit aussi à nos confrères de BFM Tech qu'il sera à celle du candidat à la présidentielle David Isliesnar? C'est Sardoche, le streamer. Sardoche, l'ultra-libéral qui décrit par exemple les retraites comme un système pour débiles qui ne savent pas économiser, ce sont ses mots. Pour Reconquête, il accepte par admiration pour Sarah Knafo, pour David Lisnard, par soutien. Il doit vaincre en 2027 et il le fera, écrivait-il en avril en parlant de l'actuel maire de Cannes.
Et il y a les autres.
Et il se dit prêt à accepter une invitation du Rassemblement National, dirigé, dit-il, par le très socialiste Bardella, comme il l'appelle, prêt aussi à se frotter en débat à Jean-Luc Mélenchon, même si éviter d'appeler ses partisans la vermine et les fistes pourrait peut-être faciliter le contact. En tout cas, le jeune homme l'assure, il veut peser sur la prochaine présidentielle et si ça ne tourne pas dans son sens, il quittera le pays.
Alors dans ce cas, que perdra la France?
Un streamer de 33 ans, dont une décennie à jouer aux jeux vidéo en live sur Internet. 10 années jalonnées de polémiques pour Andreas Oné, c'est son vrai nom. D'abord parce que son audience, il l'a construite sur la culture de la rage, c'est-à-dire sa propension à s'énerver, à fracasser des claviers ou encore à finir en larmes au point d'être suspendu de la plateforme de live Twitch pour comportement autodestructeur. Polémique ensuite autour de propos ouvertement sexistes, lui-même dit les regretter aujourd'hui, autour d'insultes et d'accusations de cyberharcèlement. Sa manière de livrer des personnes à la vindicte de ses 600 000 abonnés sur X, c'est très rare, répond-il, et ce n'est que pour ceux qui, je cite, le méritent. Tout cela lui vaut de ne plus être invité à des événements caritatifs en ligne qui lui tiennent pourtant à cœur. Mais faire de la politique, même sans se présenter, c'est faire des choix.
Un personnage. Merci beaucoup, Victor, pour chez RMC. Il était 7h54. Tout l'été, des reportages près de chez vous, 4 mois après les élections municipales.
RMC.
Dans vos villes.
Et ce matin, Sonia Gobry, on nous emmène dans les Corbières, en Occitanie, où un incendie a dévoré une partie du massif. C'était il y a un an, le 5 août, une femme y était décédée. L'incendie a touché 14 communes, dont Ribaute, dirigée par un maire sans étiquette. Sonia, c'est ici qu'est parti le méga-feu dévastateur.
Le massif reste défiguré par cet incendie baptisé l'ogre des Corbières. Sur les collines, l'herbe jaunie contraste avec les squelettes d'arbres carbonisés. Le maire de Ribotte, Philippe Estrade, me donne rendez-vous à la sortie du village près d'un ancien tunnel ferroviaire.
C'est probablement aux alentours de ce tunnel que le feu a démarré. Là, vous voyez là-haut, il y a des marquages. Ce sont les enquêteurs qui ont essayé d'analyser les premières combustions. On a vécu quelque chose de dingue avec cet incendie qui a été en même temps un spectacle et une terreur.
Aux commandes, à ce moment-là, l'ancien maire Alain Coste reste très marqué.
Quand je suis arrivé sur place, wow. Franchement, le premier sentiment, on est dépourvu. On voit vite les conséquences, on essaye de ne pas s'affoler, de parer au plus pressé.
Puis il a fallu préparer la reconstruction, monter des dizaines de dossiers d'aide, de subventions.
Pendant des mois et des mois, on ne vit qu'à travers le feu, que pour le feu. On a fait ce qui nous semblait être bien. Après,
Il y a eu le verdict des urnes. Battu au municipal, l'ancien maire défendait un vaste projet de parc photovoltaïque qui a divisé le village. Son successeur, Philippe Estrade, qui s'y oppose, estime que l'incendie a changé les regards.
Le feu a été l'occasion quand même de faire en sorte que chacun doive avoir l'obligation de faire la synthèse sur ce qu'il pensait de la gestion de l'espace naturel. La question qui est vraiment utile de se poser, c'est pourquoi ce départ de feu-là a fait tant de mal.
Sylvie Bachevillier a vu ses 6 hectares de vignes partir en fumée.
C'était notre vie, notre passion, et de tout perdre comme ça en une demi-heure, c'est très impressionnant et très décourageant.
Pour elle, les conséquences de cet incendie, certes d'origine humaine, étaient prévisibles.
Dans les réserves déjà, la vigne n'avait déjà plus d'eau. Du coup, elle crevait déjà de soif, ça se voyait déjà visuellement depuis le début de l'été. Et, habituellement, une vigne, ça ne brûle pas. En tout cas, ça fait coupe-feu. Et là, ça n'a pas tenu du tout.
De l'autre côté de la vallée, Claude Viala, d'une autre viticultrice, a fait des travaux pour protéger son domaine.
Ici, à droite, si le feu arrive, Dieu sert, c'est ici. Donc, on a ces vignes, mais ici, on a des bois. On a dégagé, sur 60 mètres, on a coupé tous les arbres pour faire une ceinture pour le feu, c'est-à-dire que le feu ne puisse rien manger.
Initiative saluée par le maire Philippe Estrade.
On est tiraillé entre les encourager à entretenir leur espace naturel dont ils sont propriétaires, et en même temps, ne pas les stresser trop. Je crois qu'on est suffisamment traumatisé.
Françoise, habitante de Ribotte, reste en effet hyper vigilante depuis ce méga-feu.
On a eu peur quand même. On a un bois juste sur le chemin, là, qui n'est pas entretenu, et il est entre les maisons. Alors on a écrit au maire parce que la personne ne s'en occupe pas, la propriétaire.
Pour que le maire rappelle que le débroussaillage est obligatoire en zone à risque incendie.
Merci beaucoup Sonia Gobry. Allez, dans un instant sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT, le journal de 8h avec à la une la piste criminelle qui est désormais privilégiée pour les incendies dans le Var. Et puis juste après, l'écho avec notre économiste Pierre Rondeau. Pierre, la bourse, ça marche, et ça marche même très fort.
Ah, ça marche très bien. Si vous voulez gagner de l'argent cette année, il fallait prendre des risques et jouer en bourse.
Allez, à tout de suite, bon réveil à tous.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.